Bonsoir, encore une année exceptionnelle sur le front de l'immobilier qui bat des records une nouvelle fois. Record de transactions et tout ça se double et d'une hausse des prix qui s'accélère encore un petit peu plus. Alors, est-ce que ça va se poursuivre maintenant que 2018 vient de démarrer? Est-ce qu'on va connaître une année historique à nouveau? Pas sûr, hein, certains en doutent. Hein. La hausse des prix dans les grandes villes, le risque taux, est-ce que ça ne va pas plomber eh bien le pouvoir d'achat immobilier? Plus les nouvelles mesures gouvernementales en vigueur depuis quelques jours maintenant. Alors, résultat, est-ce qu'on va assister à la fin de l'euphorie immobilière? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Ah oui, l'immobilier dans les décodeurs, sujet qui vous passionne. C'est bien, on redémarre souvent la nouvelle année, civile en tout cas, par un sujet immobilier justement, avec tous nos décodeurs, nos spécialistes. Tenez, une première, c'est sa première intervention en tant que nouveau patron de Foncia. Philippe Salle, tout nouveau président du groupe Foncia, qui accompagne notamment dans l'achat, la vente, la gestion de location, la copropriété, l'estimation, la vente de biens, l'administration de biens. Il a plus de 600 agences en France. Henri Buzy-Cazot, évidemment l'un des piliers des décodeurs de l'écho quand il s'agit de parler de l'immobilier, président de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Immobilier, voici Marie-Cœur de Roy, bien sûr, grande spécialiste ici à la rédaction de BFM Business. Laurent Demeure, à la tête de Coldwell Banker France, Monaco, l'un des grands acteurs de l'immobilier de luxe dans le monde. Et puis Sandrine Allonier, tout naturellement aussi Sandrine Allonier, directrice des relations banques de vousfinancer.com. Oui, c'est vrai que les différents réseaux immobiliers commencent à compiler leurs chiffres. Et dernière en date, c'était ce matin, La Forêt, qui a vu son activité bondir de 14% en 2017 en France. Guy Hoquet, plus 11,5%. Orpi, plus 7%. Et puis fin décembre, c'était les notaires qui évoquaient 952 000 transactions jusqu'à fin septembre. Et peut-être 1 million sur l'année 2017. Le chiffre peut-être à retenir avec des volumes de vente de 15,5% sur un an. Alors tiens, comme pour l'auto dont on parlait hier dans les décodeurs de l'écho, est-ce qu'on assiste à une année exceptionnelle, une année historique? Tiens, Laurent Demeure.
Bah écoutez, oui, une année exceptionnelle, double raison. Premièrement, une année électorale. Et les années électorales ont toujours été des mauvaises années dans l'immobilier.
D'accord.
On n'a jamais connu une année électorale bonne, à l'exception de 2017. Et 2017 en plus, nous battons le record historique des transactions en France. Donc, une année doublement exceptionnelle.
Bon, Marie-Cœur de Roy.
Oui, c'est une année exceptionnelle.
Alors, on affiche Cœur et à Guillaume Sobrer tous les matins.
Oui, bien sûr. Alors, on affiche ce chiffre d'un million. Je précise, on n'y sera pas. Hein. On y sera juste en dessous. Mais c'est vrai qu'on l'a vu, hein, ce cap du million. Ouais. En tout cas, pour les transactions dans l'ancien, on n'y sera pas. Mais c'est vrai qu'on est quand même sur un record historique. Et oui, cette année, elle a été exceptionnelle. Laurent a raison. Hein. C'est-à-dire qu'on était en année électorale. Et en plus de ça, on avait une incertitude fiscale qui était assez importante en cette année électorale. Et ça n'a visiblement pas plombé la demande immobilière. Donc oui, c'était une année exceptionnelle.
Année mémorable, Henri Buzy-Cazot.
Oui, mémorable parce que les performances sont exceptionnelles. Ça vient d'être dit. Et puis mémorable aussi parce que, contre toute attente, on change assez radicalement des règles du jeu qui semblait démontrer qu'elle faisait bien fonctionner le jeu. Voilà, moi je la trouve exceptionnelle pour ça aussi, mais on va en parler, je pense.
Tout juste. Alors bon, Philippe, ça, je ne vous demande pas si c'est une année mémorable, puisque ça fait juste quelques jours, quelques heures que vous êtes à la tête de Foncia.
On fera une croissance à deux chiffres, hein, sur Foncia aussi.
C'est vrai. On vous a transmis les dossiers et on vous a dit c'est un très beau cru 2017.
Oui, ce sera un très beau cru. Ouais. Je crois qu'en fait, c'est quand même la conjoncture de deux phénomènes. Le premier, d'abord, c'est que les taux restent bas. Oui. Alors que l'économie redémarre, c'est ça qui est assez étonnant en fait. Hein, parce que en général, lorsque l'économie redémarre, on assiste aussi à une remontée des taux. Et on voit bien quand même que ce redémarrage reste encore fragile et que les banques centrales font quand même attention pour que la remontée des taux soit, entre guillemets, pour l'instant, indolore.
Sandrine Allonier, vousfinancer.com, justement, une année historique en France également.
Tout à fait, surtout qu'il y a un an, on était là, je pense, quasiment le même jour.
Exact.
Et on faisait déjà un sujet sur est-ce que l'immobilier va s'effondrer, est-ce que la bulle va éclater. On avait déjà des doutes l'année dernière et finalement, cette année a été exceptionnelle parce qu'on ne s'y attendait pas. On pensait que les taux allaient remonter, que ça allait bloquer la demande. On pensait que l'année électorale aussi allait déclencher l'attentisme. Et finalement, pas du tout. Et finalement, si on reprend un peu de recul, ça fait 3 ans qu'on a des années records, 2015, 2016, 2017, avec à chaque fois une croissance du marché encore de 10%. C'est pour ça que là, pour 2018, on se dit, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel.
Bon, ça, on va se projeter sur 2018 dans un sens, parce que c'est vrai, il y a eu aussi beaucoup de changements depuis le 1er janvier, maintenant, depuis 3 jours. Et tout ça, Henri Buzicazo, Marie-Cœur de Roy, donc, c'est fait malgré une hausse des prix au mètre carré, en hausse, hein, entre 2% pour les régions, 6% pour la capitale. Marie ?
C'est corrélé. C'est-à-dire qu'effectivement, on a une très très forte demande immobilière. C'est le jeu de l'offre et de la demande. Hein. Donc voilà, on a très peu d'offres dans les grandes villes. On a une forte demande dans les grandes villes. Et donc forcément, dans les grandes villes, on a des prix qui ont grimpé de manière assez spectaculaire. Alors en fonction des villes, c'est plus ou moins impressionnant. Mais quand vous regardez, je pense qu'on prendra le temps de parler de Bordeaux.
Ah, oui,
mais on est sur une hausse à 2 chiffres. Et je crois que c'est de mémoire, hein, Guy Hoquet, Meilleurs Agents, qui parle même d'une hausse de près de 17% sur un an. C'est incroyable, historique.
Ouais, vous parlez de Bordeaux. Ouais,
donc, Bordeaux,
ouais,
ça, il s'est vraiment passé quelque chose d'incroyable. C'est après, vous avez les valeurs sûres, j'ai envie de vous dire, comme Paris, comme Lyon, où on a des hausses de l'ordre de 6-7%.
Nantes, plus 6,3%. Voilà. Lyon, plus 6%. Angers, plus 5,4%. Lille, plus 5,2%. Voilà, là, je cite les chiffres des notaires.
Ouais, c'est des villes où, effectivement, les prix grimpent fortement parce qu'on a très, très peu d'offres et on a une demande très, très dynamique.
Bon, noter Saint-Etienne, Le Havre et Dijon, pour le coup, à la baisse.
Bah, hein, oui, mais voilà, on a de fortes disparités géographiques. Quand vous voyez la moyenne nationale, on n'est pas du tout dans ces niveaux de Bordeaux ou quoi, on est sur du 2-3% de hausse sur l'ensemble de l'année 2017, ce qui reste quand même pas mal.
Henri, elle a raison, Marie-Cœur de Roy, quand même, quand elle dit, voilà ce qu'il faut souligner, et ça a tendance peut-être à s'aggraver, c'est ce fort contraste entre Paris et la plupart des grandes villes de France, justement. Il y a un écart de plus en plus important.
Oui, il y a un écart de plus en plus important, mais le vrai problème, c'est la désolvabilisation du fait des prix dans la plupart des grandes villes, non seulement à Paris. Oui, hein. Oui. Et c'est doublement un problème. C'est un problème parce que finalement, derrière ces belles performances de 2017, le marché est devenu élitiste. Et il a exclu aussi. C'est-à-dire que certains accédants ne peuvent plus accéder, certains primo-accédants, pour l'essentiel d'ailleurs d'entre eux, sont en dehors du marché, dans les grandes villes. Et ça, il faut le voir derrière ces excellentes performances qu'on vient d'évoquer. Et puis c'est une mauvaise nouvelle pour l'avenir, parce qu'à l'avenir 2018, on a ce mouvement qui n'est pas enrayé, et ce qui peut l'enrayer, malheureusement, ce sont des dispositions de long terme. Ça va toucher aux fonciers, pour qu'il y ait une abondance foncière qui permette de faire baisser les prix de production. On n'y est pas, une simplification des règles de production, aménagement du territoire, ça se fera pas dans l'année. Et puis deuxièmement, des aides publiques qui vont baisser. Donc une double désolvabilisation par les prix et par une moindre aide de la part de l'État ou des collectivités.
Qui peut encore acheter dans les grandes villes aujourd'hui, Sandrine Allonier?
Oui, alors moi je me suis amusée à faire une étude. Enfin, c'est pas forcément drôle, puisque c'est qu'est-ce qu'on peut acheter aujourd'hui à Paris, qu'est-ce qu'on peut acheter aujourd'hui dans les grandes villes de France en gagnant le SMIC.
Le SMIC.
Et ce qui est intéressant, c'est que
j'ai comparé. Il vient d'être valorisé le 1er janvier. On le rappelle, 1500 brut. Hein,
c'est ça, à peu près. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que le SMIC a augmenté de 1,24% quand les prix ont augmenté exactement de 5%, les prix de l'immobilier. Donc c'est là que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut acheter aujourd'hui avec le SMIC, surtout que le SMIC est le même partout en France, dans toutes les villes. Et finalement, quand on compare par rapport à 2010, donc là, c'est intéressant de voir l'évolution des prix.
Alors, le pouvoir d'achat immobilier avec le SMIC, hein, on voit donc à Paris, on peut acheter 10 mètres carrés.
Et ça n'a pas bougé depuis 2010, non. Donc il n'y a pas eu de hausse du pouvoir d'achat.
Lille, 31 mètres carrés, Strasbourg, 37 mètres carrés, Lyon, 26 mètres carrés, Clermont-Ferrand, 56 mètres carrés, Nantes, 35 mètres carrés, Bordeaux, 26 mètres carrés, on reviendra sur Bordeaux, Marseille, 40 mètres carrés, et Toulouse, 36 mètres carrés. Voilà, c'est vous financez .com, c'est vous qui avez mené l'enquête.
Et ce qui est intéressant, c'est que depuis 2010, le SMIC a augmenté de 12%, mais les prix de l'immobilier ont augmenté jusqu'à 60% dans certaines villes, comme Paris, comme Bordeaux. Et en fait, ce qui a permis aux gens quand même de continuer à acheter, donc je suis un peu plus positif quand même qu'Henri, c'est que les taux de crédit, dans le même temps, ont été divisés par deux. On est passé de 3,85% en moyenne sur 25 ans à 1,80%. Et donc finalement, la capacité d'emprunt a augmenté de 40%. Ce qui veut dire, c'est que finalement, aujourd'hui, ce qui a permis de resolvabiliser le marché, voilà, ce sont les taux qui ont permis, dans certaines villes, de gommer la hausse des prix. Donc on a même des villes où les prix n'ont pas bougé. Montpellier, ça a pas bougé depuis 7 ans. Marseille, quasiment pas non plus. Où là, on peut acheter, du coup, parfois jusqu'à 10 ou 15 mètres carrés de plus avec le SMIC. Donc voilà, finalement, c'est seulement les taux qui ont réussi un peu à gommer ces effets de prix. Mais c'est vrai que ça peut être inquiétant pour l'avenir.
Alors, Henri Buzicazo et juste après Philippe Salle à la tête de Foncia.
Quand on voit sur les derniers mois une division par deux de la proportion des primo-accédants dans les 10 premières grandes villes de France, il y a un problème. Ouais. Il est certain que grâce aux taux qui sont restés très, très digestes, voire qui ont baissé, on a atténué
la casse,
ce cancer. On a atténué ce cancer.
ce cancer carrément. Philippe Salle.
Oui, ben, ce que je disais, hein, c'est les taux pour moi sont la grande. La question, c'est est-ce qu'il y aura un soft ou un landing sur les taux? Et c'est ça qui derrière donnera en fait un le landing sur le marché immobilier. Et je pense que les banques centrales le savent. C'est vrai d'ailleurs en France, c'est vrai dans toute l'Europe et aux États-Unis. Et que donc il faut que cette hausse des taux soit modérée pour éviter justement qu'il y ait un moment un crack immobilier.
Les taux, comment se profile sur les taux? Sandrine Dallonier, Laurent Demeure.
Il va y avoir deux aspects, bien sûr, évidemment la politique des banques centrales européennes, mais aussi la politique commerciale des banques en France, puisqu'elles ont ensuite une marge de manœuvre un petit peu, elles peuvent compresser leur marge en fonction de leur volonté de prêter.
C'est quoi le comportement des banquiers en ce début d'année 2018, Sandrine Dallonier?
Alors là, elles sont pour l'instant les banques sont assez attentistes. Hein. Souvent en janvier, on voit pas trop de mouvements sur les taux. On a eu quelques baisses, on a eu aussi quelques hausses. Je dirais qu'elles jaugent un peu la demande, mais ce qui est certain, c'est que pour 2018, elles veulent faire aussi bien qu'en 2017 en termes de production de crédit. Or 2017, on l'a dit, va être une production de crédit record. On devrait atteindre 270 milliards d'euros contre 250 l'année dernière. Donc elles veulent prêter autant. Et pour cela, il va falloir qu'elles maintiennent les taux bas. Donc vraiment, l'objectif cette année, ça va être de maintenir cet environnement de taux bas. Et a priori...
Avec une compétition entre les banques à nouveau?
Avec une compétition entre les banques.
Qui a redémarré.
Qui va tirer les taux vers le bas. Aujourd'hui, on peut encore emprunter à 1,5% sur 20 ans. Finalement, par rapport à il y a un an, ça a augmenté que de 0,10%. Ah ouais. Donc la hausse des taux n'a finalement pas eu lieu. Et a priori, les banques vont tout faire pour retarder cette hausse de taux, pour ne pas casser cette dynamique de marché.
Et rallonger les durées. Il y a aussi une tendance au rallongement des durées. De toute façon, c'est une façon d'absorber les prix majorés.
Alors ensuite, Marie Cœur d'Aura, Laurent Demeure.
Je voudrais casser un petit peu l'optimisme de Sandrine. Mais alors, il va se passer quelque chose de très important ce début d'année. On va savoir d'ici 10 jours si oui ou non les emprunteurs auront le droit de résilier leur assurance emprunteur tous les ans à la date anniversaire de leur contrat. Je vous rappelle que c'est un produit sur lequel les banques se font une grosse marge, le maximum de marge d'ailleurs, si elles devaient le perdre.
Là,
si
vous parlez d'une des nouvelles dispositions donc qui est censé entrer en vigueur
au 1er janvier.
Sauf que le Conseil constitutionnel
doit valider ça, le Conseil constitutionnel. Et donc, voilà,
alors, en quoi ça consiste?
L'assurance emprunteur, c'est une assurance qui n'est pas obligatoire, mais que les banques vous forcent à prendre quand vous prenez un crédit immobilier. C'est important parce que ça vous couvre contre le risque, mais Sandrine l'expliquerait bien mieux que moi. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut coûter très très cher. Les banques se font beaucoup de marge sur ce produit bancaire. Elles vous vendent le taux d'intérêt, votre crédit, plus l'assurance emprunteur, et vous restez tanké avec. Là, la possibilité couvre ce qui va rentrer en vigueur, la mesure qui entre en vigueur, c'est de pouvoir changer d'assurance emprunteur tous les ans à la date anniversaire de votre contrat. Autrement dit, quitter la banque pour aller chez un assureur alternatif qui pratique des tarifs, je crois de mémoire, qui sont environ 25 à 30% moins chers que ceux des banques. Sauf que si les banques perdent ce produit très rémunérateur pour elles, est-ce qu'elles ne vont pas être tentées d'augmenter plus fortement les taux d'intérêt globaux de leur crédit? C'est quand même une question
pour
et une incertitude.
Pour se rattraper, c'est
exactement
ça.
Qui pèse sur cette année 2018.
Qu'est-ce qui fait que le Conseil constitutionnel pourrait invalider ou pas cette disposition?
Alors, les banques ont saisi le Conseil constitutionnel parce qu'elles considèrent qu'il y a une mutualisation des risques chez elles, mais je pense que là aussi, Sandrine pourrait parler beaucoup sur le sujet, et donc elles espèrent pouvoir obtenir gain de cause parce qu'elles pensent pouvoir protéger mieux aujourd'hui les emprunteurs en mutualisant les risques sur les différents profils d'emprunteurs, les plus à risque et les moins à risque. Si elle le perdait, ça serait, selon elle, moins au bénéfice finalement des emprunteurs les plus risqués.
Alors Sandrine Dallonier, allez-y, enchaînez.
Oui, il pourrait y avoir en effet un impact. Aujourd'hui, ce qui va décider le niveau des taux en 2018, c'est un, donc la politique de la Banque Centrale Européenne, mais on sent qu'elle va pas forcément être complètement dans le sillage de celle de la Fed. Donc je dirais que voilà, là-dessus, c'est pas un gros sujet d'inquiétude. Il y a également cette mesure sur l'assurance emprunteur qui pourrait conduire les banques à relever leurs taux, mais de l'ordre de 0,10%, donc c'est pas énorme.
Le montant de 2017.
Total. Et il y a aussi après les sujets sur la domiciliation des revenus et globalement sur la rentabilité des banques.
Domiciliation des revenus qui va être encadrée hein, quand on parle de crédit immobilier. Voilà. Là aussi, ce sont l'une des nouvelles mesures de 2018.
Hein. Tout à fait. Les banques, pour demander la domiciliation des revenus, devront consentir un avantage à l'emprunteur, donc devront un peu baisser leur taux. Donc elles pourraient les remonter un peu avant artificiellement. Et ensuite, la domiciliation doit être due pendant 10 ans. Donc aujourd'hui, il y a des vrais sujets qui pèsent sur la rentabilité des banques. Et donc, elles vont devoir un petit peu ajuster les taux en fonction de ça. Mais il faut savoir quand même qu'elles gagnent aujourd'hui plus d'argent à prêter avec des crédits immobiliers qu'en plaçant leur argent à la BCE. Donc, je reste quand même globalement optimiste. Et je ne mettrai pas aujourd'hui le feu et sur les prévisions sur 2018.
Laurent Demeure, Coldwell Banker.
Ah oui, les taux, je dirais, c'est quelque chose d'excessivement important. Puisque si on regarde le modèle américain, ce qui s'est passé, c'est que l'immobilier américain a connu des années très fastes avec Obama, qui a relancé l'économie américaine grâce à la politique du quantitative easy, c'est-à-dire des taux très très bas. À la fin de cette politique du quantitative easy, nous, ce qu'on a observé en tant que collab banker, puisqu'on a des, on est numéro un du marché américain avec 11% de part de marché, on s'est aperçu que progressivement, ça a freiné le marché sur les, sur l'immobilier de luxe dans un premier temps, puis sur le marché de l'immobilier moyen, enfin, général dans un deuxième temps. Et donc, ce qui s'est passé, il faudrait pas que ça arrive en France, parce que si on fait la même chose, on parlait d'un atterrissage en soft landing, si on fait un atterrissage,
disait Philippe Sarr,
si on ne fait pas un soft landing et qu'on arrête brutalement le robinet de crédit, on va avoir un marché qui va se bloquer immédiatement. Et avec toutes les conséquences pour l'ensemble de l'économie française, puisque l'immobilier contribue énormément à la croissance de l'économie.
Ouais, le bâtiment, notamment, les déménagements. Oui, Philippe, ça le foncier.
Il faut quand même dire qu'aux États-Unis, la grosse différence qu'on a avec l'Europe, et notamment la France, c'est que les taux sont variables.
Tout à fait.
Et donc, eux, effectivement, dès qu'il y a une augmentation des taux, il y a une répercussion tout de suite, en fait, sur le remboursement de crédit. L'avantage quand même de la France, c'est qu'on est, enfin, la plupart des crédits sont en taux fixe. Et donc, même s'il y a hausse de crédit, de toute façon, tous ceux qui ont été faits avant n'auront pas d'impact dans le futur. En revanche, sur les nouvelles productions, effectivement, la hausse des taux aura un impact sur le nombre de transactions à venir, c'est clair.
Henri Buzicazo.
Ben, il me semble que la donnée majeure de l'année 2018, ça va quand même être l'environnement réglementaire et la modification du paysage des aides publiques. Alors, deux choses. Sur les aides publiques nationales, d'État, la loi de finances désormais votée, on y voit clair. Il faut être tout à fait lucide. Des dizaines de milliers de ménages vont être moins solvabilisés. Bon. Qu'est-ce que ça va donner?
Alors, à cause de quoi, alors, par exemple?
Alors, bon, on a parlé tout à l'heure de l'appel à l'accession. L'aide aux accédants à la propriété. Elle disparaît
quasiment. L'appel à l'accession qui va être moins accessible.
50 000 personnes quand même par an.
Voilà, une paille, 50 000 ménages concernés. Il faut également parler du Pinel dans le neuf qui va
être recentré,
sur les zones les plus denses.
Tendu, ouais.
Le prêt à taux zéro qui est un outil majeur qui perd la moitié de son souffle sur une grande partie du territoire. Et puis les collectivités locales. Alors, bonne nouvelle, la taxe d'habitation pour les ménages qui ont des revenus moyens va disparaître en trois tiers, et le président de la République a annoncé d'ailleurs la suppression pour la totalité des Français. C'est les conséquences qu'on ne mesure pas, sur la taxe foncière en particulier. Il est très probable que la taxe foncière augmente dès 2018 et qu'elle vienne désolvabiliser les propriétaires, que ce soit les nouveaux propriétaires ou ceux qui le sont depuis longtemps. Vous savez qu'on paie chaque année cette taxe-là. Elle est d'un montant très élevé, très comparable à la taxe d'habitation, et même souvent supérieure. Donc on a des
Ce que vous dites, c'est que les élus locaux vont se venger, en tout cas vont se rattraper quelque part sur la taxe foncière.
Doublement d'ailleurs, ils vont se rattraper très probablement sur la taxe foncière parce qu'ils ont besoin de moyens pour apporter des services.
Bien sûr,
Et deuxièmement, ils vont se rattraper, ça c'est une très mauvaise nouvelle pour la production de logements, en étant beaucoup plus malthusiens sur la délivrance des permis de construire. Parce que s'ils n'ont pas non plus les moyens d'accompagner des immeubles qui sortent de terre, des services qui leur sont demandés par les ménages, eh bien ils donneront moins de permis de construire. C'est une évidence. Donc on sait aujourd'hui que ce dialogue qui n'est pas encore huilé entre l'État et les collectivités crée une hypothèque considérable sur l'ambiance immobilière en France en 2018.
Et ça, vous le voyez, Philippe Sall, donc, vous, à la tête de Foncia?
Oui, on le voit, surtout qu'effectivement, on est des spécialistes, nous, du T2 au T4, donc on va avoir un impact, on le sait bien. Je voudrais quand même juste souligner, indépendamment de l'immobilier, je pense que c'est enfin un président qui commence aussi à baisser la dépense publique, et qu'il faut qu'on arrête de se faire biberonner quand même par des aides.
Voilà.
Donc je suis quand même, enfin moi, plutôt favorable à ce que...
Est-ce qu'on arrête de mettre sous perfusion, permanence. Exactement. Depuis des dizaines d'années.
Il faut voir quand même que la France, par rapport à ses concurrents, on est à peu près entre 150 et 200 milliards de dépenses en trop. Notamment parce qu'il y a beaucoup de subventions à droite à gauche et qu'il faut remettre tout ça à plat.
Oui,
je pense que c'est un bon... Alors, immobilier, pas immobilier, je pense que c'est enfin un pas, déjà, pour commencer
à
dire...
C'est ça la raison. C'est pas plus sain quand même, maintenant, Henri Buzicazo?
C'est plus sain. Le seul problème, c'est celui du retrait de la perfusion.
Vous m'autorisez la métaphore. C'est le timing.
À quelle vitesse les prix, parce que le pari, il est là. Le pari fait par le président de la République, et c'est un pari juste, c'est de dire il faut que les aides publiques baissent parce que ça fera baisser les prix, donc on aura moins besoin des aides publiques. Mais c'est le problème du timing. En 2018, on va avoir une année charnière. Il est probable qu'on aura retiré une grande partie de la perfusion, globalement un petit 5% du budget en moins quand même, sur le logement, et dans le même temps, les prix ne vont pas baisser
en tout cas je le redoute, à la vitesse de la baisse des aides. Voilà. Donc il y aura un effet de ciseau qui va créer une douleur et qui va faire baisser et la production de logements et probablement le nombre des reventes aussi dans l'ancien.
Marie, cœur de roi. C'est exactement ça. D'ailleurs, il a revu, j'ai envie de dire, à la baisse ses ambitions de départ.
Prenons, par exemple, vous avez raison, Marie, prenons le PTZ. Il y a quand même beaucoup de revirements autour de ce PTZ. Au départ, qu'on voulait recentrer dans le neuf sur les grandes agglos, on en avait parlé ici. Ouais. Souvenez-vous, le patron de Maison France Confort,
qui était effondré.
Ce soir-là dans les sur le plateau des décodeurs de l'écho en disant, mais je vais plus construire de pavillon. Le PTZ, il est pas totalement supprimé comme prévu. Il est diminué de moitié dans les zones les moins tendues. Période transitoire de deux ans, parce qu'il va falloir attendre 2020 pour l'application de la mesure. Qu'est-ce que ça va impliquer alors?
En fait, cette reculade, moi, pour revenir sur la signification, et c'est là où Henri a raison sur cette histoire de timing, en fait, c'est qu'effectivement.
D'année charnière, voilà, de vitesse.
Il faut débrancher, il n'y a pas de problème. Et la stratégie était même au-delà, c'était je vais enrichir l'offre immobilière pour faire baisser les prix et donc rendre moins nécessaire les aides à l'achat.
Publique, voilà.
Ce qui a un sens. Mais le problème, c'est qu'effectivement, il y a un timing. Il faut d'abord enrichir l'offre, faire baisser les prix et ensuite débrancher. Si vous faites tout au même moment, bah, vous grippez le marché. Il y a des timings en immobilier. Vous lancez des constructions, ça se fait pas en deux mois. Ça va prendre 2-3 ans avant qu'on puisse effectivement enrichir cette offre immobilière et potentiellement faire baisser les prix. Et c'est à ce moment-là qu'il faut débrancher les aides publiques. Là, il voulait tout faire d'un coup et il risquait de gripper le marché. Alors, du coup, est-ce qu'il va le gripper l'année prochaine? Sans doute pas. Mais effectivement, votre question de l'émission Les Décodeurs de l'écho ce soir, c'est sera
est-ce que c'est la fin de l'euphorie immobilière?
Certainement, oui, ça va calmer le marché. Ça va pas le détruire, ça va pas le bouleverser, le renverser, ça va clairement le calmer.
Ce qu'il faut préciser, cette histoire de PTZ, ça a boosté les ventes de maisons neuves en fin d'année, Marie. Professionnels craignent en revanche un impact à la baisse
de 10%
en 2018.
Les chiffres de construction sur le dernier trimestre observé par le ministère, septembre, octobre, novembre, c'est pas un trimestre au sens d'une année civile, sont mauvais. Ouais. Ils attestent d'une baisse des autorisations de construire, un permis de construire, et des mises en chantier, à des hauteurs de 2-3% sur ces deux indicateurs. Sur l'année entière, on a un redémarrage de la construction, mais les acteurs, les promoteurs, ont mis un coup de frein sur la production dans les derniers mois, parce qu'ils étaient attentistes.
Les chiffres, Marie-Cœur de Roy, pour préciser les chiffres, c'est vrai que sur les 12 mois écoulés à fin novembre, les mises en chantier de logements neufs gagnent plus de 15%, les permis de construire plus 11%. Mais ce que vous dites, c'est que ça a baissé, c'est ça.
Et ça a commencé, en fait, si vous regardez juste sur les trois derniers mois de l'année. Sur les derniers mois de l'année. Mais ça, c'est pas que lié aux constructeurs de maisons individuelles. C'est pire que ça, parce que ça, on aura l'occasion peut-être d'en parler. Mais c'est la réforme APL HLM.
On va en parler.
Mais ça c'est les promoteurs de logements collectifs.
On reste sur le PTZ ou les mesures publiques. Sandrine Alonier, vousfinancez.com.
Je ne crois pas en un grippage du marché. Je pense qu'on a été très gâtés en 2017. Tous les professionnels se sont réjouis de cette année record. 952 000 transactions, c'est énorme. Donc on en sera peut-être à 960. On se réjouissait en 2016 d'avoir 850 000 transactions. Là, aujourd'hui, on s'affole parce que le marché va peut-être baisser de 10%, mais ça reste quand même un marché très dynamique. On a un marché immobilier en France qui fonctionne très bien, avec des aides qui vont quand même subsister et pour les primo-accédants et pour les investisseurs. Finalement, ça aurait pu être bien pire. Alors, je suis peut-être un peu trop optimiste, mais je ne crois pas à un agrippage du marché. L'immobilier reste vraiment une valeur refuge. Il y a ce souci vraiment d'investir pour sa retraite, parce qu'on sait qu'on n'aura pas de retraite. Il y a ce souci d'être propriétaire, c'est une vraie volonté en France, et on n'a que 54% de parts de propriétaires, c'est très faible par rapport à d'autres pays européens. Donc, pour moi, je ne pense pas qu'il y aura ce grippage. Vraiment,
On va reparler de l'ISF, on va parler de la libération du foncier.
Les sirènes.
Du parc HLM aussi.
Et je pense que vraiment, l'activité va rester dynamique en 2018.
Juste avant qu'on aborde les nouveaux points, les nouveaux dispositifs fiscaux pour 2018, juste Bordeaux. Qu'est-ce qui se passe à Bordeaux qui bat tous les records d'augmentation en 2017? Les prix bordelais, 3 700 € le mètre carré. On a une hausse de 16-17% sur un an selon les différents réseaux. Et on se souvient comment les Bordelais, quelque part, c'était ligué contre les Parisiens, les vilains Parisiens qui venaient acheter. Bon,
Bordeaux, c'est San Francisco actuellement.
Ouais,
tout le monde veut venir vivre et travailler à Bordeaux. Ouais. Et on n'a jamais vu ça. Tous les copains qui sont des RH de grands groupes, me dit chaque fois que j'ai une demande de mutation d'un millénial, il veut aller à Bordeaux. Et c'est vrai que nos bureaux de Bordeaux, je dirais aujourd'hui, reçoivent un nombre de demandes absolument extraordinaire. C'est pour ça qu'on ouvre une deuxième agence sur Bordeaux. Déjà, le bassin d'Arcachon, on a déjà deux points de vente sur le bassin d'Arcachon. Aujourd'hui, tout le monde veut une résidence secondaire sur le bassin d'Arcachon. On est the place to be actuellement en Europe. C'est la région bordelaise.
Oui,
et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire.
TGV, ouais. Oui, bien sûr.
Absolument extraordinaire.
Mais il y a encore des bonnes affaires à faire ou certains parlent de bulles.
On n'est pas sur une bulle. Non, on est sur aujourd'hui. On a le TGV qui permet d'y être à 2 heures. Déjà,
ouais,
beaucoup
ça,
de
oui.
gens ont anticipé ça. On est en train de vivre ce qu'on a vécu sur Aix-en-Provence il y a quelques années, où de nombreux Parisiens étaient partis s'installer à Aix et prenaient le TGV tous les matins pour venir travailler à Paris, ou 2-3 fois par semaine.
Oui, la ville s'est transfigurée.
Voilà.
Il y a un effet urbanisme.
Ouais. On a gardé le maire.
C'est rarissime à ce degré-là.
Le président, ouais.
Voilà. C'est rarissime à ce degré-là. La ville est complètement transformée. Elle a mis 10 ans bien pesée pour devenir l'une des plus belles villes du monde, incontestablement. Donc il y a une attractivité nouvelle. L'effet TGV est venu s'ajouter à ça. La qualité de vie de cette région, qui n'a fait que s'améliorer. Il y a une conjonction d'astres finalement très favorable, mais qui pour les prix est très défavorable. C'est évident.
Tout juste Philippe Salle, François.
Oui, nous aussi. Bordeaux a été extrêmement actif, avec une croissance bien supérieure à 15%. Et je pense que quand même, c'est l'effet TGV. C'est le fait que maintenant, Paris-Bordeaux, c'est 2h ou 2h15.
2h11.
2h11, voilà. Et ce qui veut dire qu'effectivement, des gens peuvent vivre à Bordeaux et travailler à Paris. Donc ça change tout.
Laurent Demeure, Marie-Cœur de Roy, toujours sur Bordeaux.
Oui, mais sur Bordeaux, nous, on voit aussi beaucoup de. On a fait des très belles ventes. On avait sur le bassin d'Arcachon, on a battu une vente, on va dire, entre 6 et 8 millions on voit arriver des prix qui avant étaient des prix de la Côte d'Azur.
Ouais.
Et en ça, on le découvre aujourd'hui, c'est un mouvement où la Côte d'Azur est peut-être un peu moins dynamique aujourd'hui, alors que la région bordelaise est en train d'absorber l'ensemble de la demande des expatriés, des Français qui étaient partis à l'étranger, qui reviennent et qui veulent aujourd'hui être là.
Il y a encore des bonnes affaires à faire dans la région. Vous parlez d'Arcachon, apparemment, bon, c'est blindé, c'est fini. Bordeaux, c'est cuit aussi. On va où alors ?
Dans l'immobilier, il y a toujours de bonnes affaires à faire. Ouais. Une bonne affaire dans l'immobilier, c'est un endroit où vous êtes heureux quand vous y allez.
Oui,
tout simplement. Donc, c'est toujours une bonne affaire.
Oui, Marie, bon, Marie-Cœur de Roy.
Je vous entends, je veux pas paraître la plus pessimiste de cette table, hein, mais je vous entends vous enthousiasmer. 17% de hausse de prix à Bordeaux sur un an.
Qui s'est enthousiasmé?
Non, mais on n'arrête pas de dire, je suis à côté de Laurent,
on note simplement ce record de 2017
en
région.
C'est un record, alors pas de bulle.
On peut passer les 10 000 euros du mètre carré en cœur de ville, près des allées de Tourny.
Oui.
La très belle agence de Foncia est implantée là, Philippe Salle la connaît.
Soit dit en passant, par exemple, dans le neuf, il y a quand même un élément qui est quand même très intéressant. Vous voyez qui achète. En fait, vous avez majoritairement de mémoire, vous avez plus de 60% des achats dans le neuf qui sont faits par des investisseurs, pas par des gens qui veulent habiter tout de suite, par ceux qui investissent. Alors, je sais pas à quel moment on parle de spéculation, à quel moment on parle de bulle, mais quand les Bordelais eux-mêmes ne peuvent plus se loger, qu'effectivement, alors après la campagne contre les Parisiens, justifiée ou pas, la question, elle est pas là. C'est effectivement une hausse de prix de 17% à Bordeaux. TGV ou pas.
Non, pour les élus, c'est un problème. Oui. Pour les élus, c'est un problème. Oui. Très clairement, une ville qui ne peut plus loger ses forces vives qui sont balkanisées à 50 km, c'est un problème. On ne peut pas dire autre chose que ça. Même s'il y a un effet patrimoine très heureux pour les Bordelais propriétaires, on s'en réjouit. C'est une difficulté. Vous en parlez à Alain Juppé, il vous dira qu'il réfléchit par tous moyens utiles à la façon de tempérer ça, de créer des réserves foncières, d'étendre la ville, peu importe.
On ne peut rien faire.
Non, mais on ne peut rien faire. Mais en fait, c'est pour ça que
alors, il rend sa vie moins attractive.
Le fait, c'est qu'il y a des gens qui viennent s'installer pour vivre. C'est pour ça que ça fait qu'en fait, c'est pas une bulle.
C'est le grand Bordeaux qui apportera une réponse.
Les gens veulent vivre à Bordeaux aujourd'hui. On est en train d'avoir un équilibre par rapport à Paris. Donc, Paris, je dirais, c'est une capitale mondiale comme Londres, Manhattan, enfin, comme Londres, New York, et autres. Et Bordeaux, aujourd'hui, devient la grande métropole française. Européenne est en train de faire un contrepoids à Paris sur l'Europe, alors que Paris est une capitale mondiale.
Avec Lyon.
Bordeaux, qui était déjà la ville où le mètre carré avait le plus augmenté en 2016, Bordeaux qui a doublé Lyon. On dit que Lyon aussi va reprendre le chemin des excès aussi. Laurent Demeure, un mot, et puis on reviendra sur l'ensemble du territoire.
Lyon est une ville qui peut devenir, dans les 2 ans qui viennent, avec une croissance de l'immobilier, comme à Bordeaux actuellement.
Ouais,
tout à fait.
Très juste.
On a aujourd'hui sur Lyon tous les avantages, et aujourd'hui on est en train de voir les choses se rééquilibrent. On sait que la compétition mondiale, aujourd'hui, ce sont des grandes agglomérations. Il n'y a plus de petites villes, on revient au-delà des frontières. Les États aujourd'hui sont de simples territoires, mais ce sont les villes qui ont aujourd'hui c'est là où il faut être, c'est là où tout se passe. Et c'est vrai qu'on avait Paris, et aujourd'hui c'est bien, on a Bordeaux, et on va avoir Lyon aussi. Et c'est ça, 3 grands pôles
Allez, un dernier mot, puis on revient justement sur les nouveautés en matière fiscale, réglementaire, dans l'immobilier, et voir si c'est la fin de l'euphorie immobilière en France, toujours sans venir.
Finalement, la nouvelle carte immobilière qui se dessine un peu, ça me fait un peu penser au modèle de l'Allemagne, où on a plusieurs grandes villes, qui fait que du coup, les prix sont moins tendus dans la capitale. Alors. Sauf qu'à Paris, ce n'est pas le cas, puisqu'on va quand même dépasser les 9000 euros le mètre carré, d'après les chiffres des notaires. Donc, il y a Paris qui continue à tirer.
Il n'y a pas de ville mondiale en Allemagne. Il n'y a que des villes régionales européennes.
Mais à côté de ces quelques pôles qu'on commence à avoir en France où il devient difficile d'acheter, il y a quand même des villes où les prix n'ont pas augmenté depuis 7 à 8 ans, des villes qui ne se sont jamais remises de la crise de 2008. Et aujourd'hui, comment rééquilibrer un peu le territoire? Je pense que le problème, il est un peu au-delà des aides publiques, c'est réaménager le territoire, agrandir les villes et faire que les gens se sentent mieux, y compris dans des villes moins attractives.
Voilà, on en reparlera. Et puis à l'Italie aussi, puisque vous avez des implantations à Milan, vous y étiez encore il y a quelques heures, en demeure, où il y a des belles affaires à faire dans le nord de l'Italie.
Et Milan, c'est extraordinaire. C'est un marché actuellement, c'est là où il faut investir. Bon, au niveau européen, c'est là où il faut investir.
Le conseil de Laurent Demeure à la tête de Coldwell Banker, allez investir à Milan. Nous revient dans un instant pour voir ce qui va se passer sur le marché français. Est-ce que c'est la fin de l'euphorie immobilière? A tout de suite sur BFM Business.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Bon, ce sujet passionnant autour de l'immobilier, donc on y vient régulièrement dans les décodeurs de l'écho. Est-ce la fin de l'euphorie immobilière? Après une année record, donc l'année 2017, avec une hausse des prix record de transactions, on sera pas au million, nous disait Marie-Cœur de Roy.
Désolé.
Ouais, non, mais les notaires espéraient, ou en tout cas estimaient, escomptaient qu'on pouvait atteindre le million. On était à 952 000, donc, eh bien, cet automne, oui, fin septembre. C'est Gurvan Bonny sur Twitter qui réagit, qui nous pose une question. Et on le remercie, on lui souhaite une bonne année, bien sûr. Qui nous dit, je ne sais pas qui s'intéresse, Sandrine peut-être, Henri. Oui. Bonsoir, est-ce que par hasard une forte hausse des taux en provoquant un mini-crack ne pourrait pas permettre un retour des primo-accédants à l'achat et dégonfler la bulle liée aux celliers Pinel et consorts? Ça inspire qui?
Moi,
Sandrine Alonier, ouais. Financer.com.
Alors, je pense qu'un crack n'est pas du tout souhaitable, ni une très forte remontée des taux, puisque ça viendrait complètement perturber le marché. En fait, si les taux remontent à peu près à 4%, on pourra emprunter moitié moins. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'emprunter 100 000 euros pour 500 euros par mois, on pourra emprunter plus que 50 000 euros. Donc, du coup, ça fait diminuer considérablement le pouvoir d'achat, et les primo-accédants, une bonne partie sortiront spontanément du marché. En plus, en période de crack, comme ça, ou d'envolée des taux, ce n'est pas sain, et les banques ne veulent plus prêter, puisque les banques se méfient de la capacité de remboursement, puisque quand les prix s'effondrent, les banques sont beaucoup plus méfiantes. Les banques préfèrent prêter actuellement, puisque vous êtes quasiment assuré de faire une plus-value, notamment à Bordeaux ou à Paris. Donc le risque de défaut de remboursement est beaucoup plus faible. Non, vraiment, je vous assure, restons dans un marché avec des taux bas, avec quelques perfusions à droite, à gauche, mais le malade va bien se porter en 2018.
Henri Buzicazo à la tête de l'Institut du Management des Services Immobiliers.
Analyse parfaite de Sandrine, mais on peut ajouter qu'une faible hausse des taux qui serait digeste, qu'on pourrait trouver salutaire pour faire baisser les prix, n'aurait pas cet effet-là.
Oui.
Donc, faible hausse des taux, elle ne serait pas efficace. Forte hausse, tout a été dit.
Hausse des prix à Bordeaux, on a parlé. Paris, l'impact du Grand Paris, les chantiers du Grand Paris, les Jeux Olympiques, puis un petit truc dont on parle un peu de temps en temps, le Brexit. Philippe Salle, alors tiens, à la tête
alors,
de France.
Alors, les Jeux Olympiques, on a le temps, c'est 2024, il ne va pas se passer grand-chose en 2018.
Brexit,
en tout cas.
Là, on est en plein dedans, voilà.
Non, mais Brexit, il y a plusieurs milliers de familles qui vont arriver, donc c'est évident qu'il va y avoir un effet. Alors, ça reste quand même quelques milliers de familles sur un marché parisien qui est quand même, qui se compte plutôt en centaines de milliers, donc c'est pas le sujet. Mais ça va avoir un petit impact. Donc, je pense quand même que sur Paris, il va y avoir encore un effet salvateur, en tout cas, du Brexit.
Oui, Laurent Demeure, à la tête de Coldwell Banker France et Monaco, qui est en contact, évidemment, avec tous les clients étrangers.
Le Brexit a été, nous avions fait une étude en début, tout début du Brexit. Hein, nous, à l'époque, on estimait 30 000 sur 2-3 ans arrivant sur Paris, sur l'agglomération parisienne. Je pense que sur ces chiffres, même s'il y a eu des mouvements qui ont un peu changé entre-temps, on est toujours avec un flux Brexit qui se fait, diffuse de plus en plus, je dirais, accéléré, puisque les grands groupes, le temps de mettre en place leur stratégie, passer l'effet un peu émotionnel de la catastrophe du Brexit, ont tous analysé la situation et maintenant commencent à dérouler leur plan d'action. et commence à s'installer sur la capitale. Donc avec des recherches d'immobilier de bureau et naturellement d'immobilier résidentiel pour les cadres exécutifs.
Pour les familles, bien sûr, et leurs enfants. Marie-Cœur de Roy.
Oui, moi je rejoins votre question de départ, Fabrice. Je trouve qu'elle a été très bien posée parce qu'effectivement, il y a le Brexit, c'est quelques milliers de personnes et c'est important, surtout sur de l'immobilier de prestige plutôt haut de gamme, puisque c'est des gens qui ont plutôt des moyens. En revanche, effectivement, je trouve que le Grand Paris, les Nouvelles Gares et les JO, parce que les JO, l'avantage des JO, c'est pas qu'on va avoir les JO parce que c'est ponctuel, c'est que ça va forcer le calendrier du Grand Paris
à être respecté. À être respecté déjà.
Et donc, du coup, on va avoir les transports en commun. Les transports, c'est la vie, on l'a vu à Bordeaux. Et effectivement, qu'est-ce que ça va faire? Vous avez, moi, je sais plus quel constructeur de maison m'avait expliqué ça, c'est qu'il me disait, vous voyez, Paris aujourd'hui, qu'est-ce qui entoure Paris? C'est le périphérique. Mm-hmm. Et ben, bientôt, ce sera l'A86. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qui aura entre l'A86 et le périphérique fera partie de Paris intramuros.
Saint-Ouen, Villejuif, Cachan, par exemple, des villes dont on voit
les prix qui commencent à... Alors, c'est récent, hein, parce qu'il y a eu du mal. Et justement, les JO ont eu un impact. C'est-à-dire, l'obtention des JO a déclenché les actes d'achat, a accéléré les process de construction aussi des promoteurs. Et effectivement, on a des choses... Saint-Denis, c'est spectaculaire, véritablement. Les prix à Saint-Denis sont en train d'augmenter de manière vertigineuse. Vous avez tous des amis autour de vous qui veulent faire de l'investissement locatif, voire y habiter parce qu'on va avoir une gare, la gare Saint-Denis-Pléiel.
L'une des plus grosses de la ligne 15.
Exactement, une gare monstrueuse avec effectivement un passage incroyable et avec des connexions hyper pratiques pour les travailleurs. Donc, il se passe quelque chose réellement.
Laurent Demeure, juste un mot, puis on revient sur les... Parce que là, ça passe, on bavarde, c'est formidable. l'immobilier français, où se positionnent de plus en plus les étrangers, c'est les notaires qui disaient la part des acquéreurs étrangers de logements anciens en province, elle est plus de 4%. Les Britanniques, les Italiens, les Belges, on continue à tirer.
Oui, je dirais la France a toujours attiré avec son immobilier. Je dirais tout le monde. Moi, quand j'avais commencé ma carrière avec Colin Banker, c'était 2011. J'avais un métier facile. Chaque fois que je rencontrais quelqu'un à l'étranger, je lui disais voilà, je suis dans l'immobilier, je travaille à Paris, je travaille en France. Ah, j'adorerais acheter un appartement en France, mais à Paris. C'était la première phrase spontanée. Et donc tout le monde rêvait de posséder un peu d'immobilier français pour posséder un peu de la tradition française, de l'histoire de la France. Et les étrangers, notamment, on le voit nous sur nos régions, et que ça soit Bordeaux, que ça soit Paris, que ça soit même des régions comme la Charente aujourd'hui, des flux d'acquéreurs étrangers absolument extraordinaires qui viennent de l'Europe du Nord, qui les Britanniques, qui viennent s'installer, qui viennent parce qu'on a un immobilier stable, qu'on a un bon service public, des bons soins, des bons services de santé et un cadre de vie agréable pour passer des vacances. Donc on a un flux qui continue et qui s'accélère. Et les Italiens restent toujours depuis 10 ou 15 ans les premiers acheteurs d'immobilier à Paris.
Les nouveautés 2018, hein, puisqu'on est le 3 janvier. Alors on a évoqué ce PTZ un peu entre deux eaux, ce recentrage du dispositif Pinel, l'initiation des revenus qui va être encadrée. La libération du foncier, important aussi ça, Marie-Cœur de Roy. Exonération partielle ou totale de l'impôt sur le revenu, sur la plus-value réalisée. Qu'est-ce que ça va changer?
Tout et rien. C'est-à-dire que c'est la plus grosse mesure quand même du fameux choc d'offres que nous a présenté le gouvernement. Alors je dis la plus grosse, alors c'est une fenêtre de tir fiscal de 3 ans et les fenêtres de tir fiscal, c'est plutôt alléchant pour ceux qui vont en bénéficier. Donc ça va forcément créer une forme d'appel d'air. Et la mesure est intéressante puisque, donc vous le disiez, c'est une exonération totale ou partielle. On commence à 70% de mémoire lorsque vous vendez votre terrain pour y construire du logement libre. 85% si la personne qui va, le promoteur qui va construit au moins 50% de logement social. Et 100%, et ça c'était une mesure qui existait déjà, qui est simplement prolongée, 100% si vous vendez directement à un bailleur social, ce qui risque d'être de plus en plus compliqué ces prochaines années. Bon, bref. Mais voilà, donc c'est une fenêtre de tir fiscal qui est très intéressante. Après, la question, c'est que c'est la mesure du choc d'offre. Donc l'enjeu, c'est de libérer du terrain, construire davantage, faire baisser les prix. Mais est-ce que, comme il n'y a pas de bornage sur les prix, est-ce que ça va vraiment faire baisser les prix? Est-ce que vous n'avez pas beaucoup de propriétaires qui vont en profiter pour vendre cher aux promoteurs pour qu'ils construisent, pour bénéficier de la carotte fiscale, des promoteurs qui eux-mêmes, du coup, vont construire et vont vendre cher?
Encore plus cher, bien sûr.
C'est toujours la question.
L'ISF transformé en IFI, donc l'impôt sur la fortune immobilière, ça aussi, donc c'était le grand combat d'Emmanuel Macron qui avait promis de poursuivre la rente immobilière. Alors moi, je me souviens, c'est Laurent Demeure qui était venu il y a un mois et demi, qui nous avait expliqué l'IFI, c'est une vision de l'immobilier digne du 19e. Bon, vous avez changé d'avis ou pas?
Non, c'est toujours. Pourquoi changer?
J'en sais rien, on peut changer. Henri Buzicazo, il va y avoir un impact ou pas? Est-ce que c'est vraiment un ennemi de l'investissement, cet IFI? Est-ce que les investisseurs peuvent être découragés?
Deux choses. D'abord, il a été dit à la faveur de cette transformation de l'ISF en seul IFI des mots désagréables aux oreilles des acteurs de l'immobilier. Ouais. C'est-à-dire les ménages ou les professionnels. Ouais. Non, c'est pas une rente. Ouais. Bon, moi j'attends une palinodie, un remords présidentiel sur le sujet, parce que c'est un secteur productif à tous égards. Et ça, c'est dommage, ça a envoyé des signaux négatifs. Je ne peux pas croire que des investisseurs aient pas entendu ça. Et deuxièmement, il y aura sans doute un effet de report, parce que c'est un peu fait pour ça, malheureusement. On veut que l'argent aille plutôt directement dans l'investissement vers les entreprises.
Ça,
et donc, il y aura
ça s'est déjà concrétisé là dans les derniers jours, semaines de décembre. Est-ce qu'on a vu justement, eh bien, des
Des arbitrages
potentiels, des arbitrages en disant bah il y a l'IFI qui me pend au nez. FIPS, Alphonsia et ensuite
dans le groupe Alphonsia, on a une SCPI et la collecte de décembre est pas très bonne. Donc on voit bien quand même que l'investissement dans la pierre est en train de baisser.
Ah carrément. Oui, Laurent Demeure.
Oui, on a vu nous certains clients étrangers qui ou certains Français qui étaient partis suite à l'exil des forces vives qui avec l'IFI finalement renoncent à revenir.
Ah.
Voilà. Donc finalement on se prive de forces vives qui auraient pu revenir investir en France. Et en même temps, c'est vrai que quand on analyse aujourd'hui le marché du luxe, au-dessus de 3 millions sur Paris, c'est 10 ventes par mois actuellement.
Contre ?
C'était 25-30 avant.
D'accord.
Donc finalement, il y a un effet d'attentisme via l'IFI qui a quand même eu lieu. Donc le marché de l'immobilier parisien a été très fort cette année, mais il a été très fort entre 1, 2, voilà. C'est-à-dire dans la limite des 30% d'abattement de la résidence principale pour ne pas tomber dans l'IFI.
Marie, les HLM, l'impact des mesures concernant le monde HLM, le budget 2018 qui impose aux HLM de diminuer leur loyer, alors bon, de quelques millions, de centaines de millions, voire de milliards d'ici 2020. Moins d'investissement,
clairement.
Ouais.
Clairement, vous
à
demandez.
Terme.
Ah oui, non, mais clairement. Et puis ça se verra. Alors, faut regarder parce que la mesure est maligne, mais parce qu'elle sera visible que dans deux ans et demi. Parce que pourquoi? Parce que les promoteurs et les bailleurs sociaux ont lancé des programmes déjà. Ils ont lancé beaucoup de programmes qui commencent à être mis en chantier. Donc les chiffres de mise en chantier seront très bons. En revanche, ils ont tellement eu peur de cette mesure, les bailleurs sociaux, qu'ils ont commencé à geler leurs programmes et les lancements de nouveaux programmes. Vous allez le voir si vous regardez les permis de construire qui seront accordés ces prochains mois. Et on l'a déjà vu. Et on en a parlé. Là, pour le coup, on sera sur un recul qui risque d'être très net. Et attention, quand on parle des bailleurs sociaux et de la baisse des commandes des bailleurs sociaux, le risque, il est global sur toute la chaîne de la construction. On l'a dit beaucoup ces dernières semaines. Parce que je vous rappelle que dans la plupart des grandes villes, vous avez quoi? Vous avez l'obligation pour un promoteur de construire au moins 25-30% de logements sociaux. Donc, s'il n'y a pas de commande des bailleurs sociaux, le promoteur ne construit rien du tout.
Oui.
Donc oui, le risque, il est là.
Ah oui, Henri Buzigazo.
Aujourd'hui, la quasi-totalité des promoteurs ont une grande partie de leur chiffre d'affaires, sans même parler de l'obligation, qui est du logement social.
Nexity, plus de
20%. Voilà, sans parler de ceux qui ne font que ça à Lila, mais d'autres en font une partie Nexity très significative.
Juste avant qu'on se dise au revoir, qu'on conclue, au-delà des mesures gouvernementales, quel impact de l'encadrement des loyers qui a été freiné, enfin annulé même, mise en cause par la justice, notamment à Paris et Lille, qui, allez, Marie Cordoa.
Il n'y a pas d'impact actuellement, puisque finalement, comme le marché de la transaction se porte excessivement bien, finalement, de plus en plus de locataires achetant, finalement, le pipe de locataires est plus faible qu'avant. Donc finalement, la régulation du marché...
C'est-à-dire, il n'y aura aucun impact pour les locataires. Déjà, la bonne nouvelle, pour tous ceux qui s'inquiètent pour les locataires parisiens et les locataires lillois à qui on a dit que leur loyer allait flamber d'un coup, ce n'est pas vrai. Donc déjà, bonne nouvelle. Et l'autre nouvelle, c'est qu'effectivement, ça rassure l'investisseur locatif qui avait un peu déserté le marché au profit des sites de location touristique type Airbnb. Peut-être qu'il reviendra sur le logement tradit. Après, on verra ça dans le temps. Mais pour le moment, aucun impact.
Bon, allez, petit tour de table. Est-ce que c'est la fin de l'euphorie immobilière? Une belle année quand même qui se profile. Sandrine Alonier.
Oui, moi je pense que les fondamentaux du marché restent là, restent bons. Après, comme 2017 a été une année record, on aura peut-être une baisse du marché, je vais m'avancer, de l'ordre de 10%, mais ce qui ne serait pas dramatique. On serait revenu au niveau de 2016, qui était aussi une année record. Donc pour moi, rien d'inquiétant, peut-être un peu un assainissement du marché. La bonne nouvelle quand même, parce que j'aime bien les bonnes nouvelles, c'est qu'il n'y a plus trop de renégociations de prêts, donc les banques vont se consacrer vraiment aux acquéreurs, et je pense qu'elles vont essayer d'accompagner les acheteurs via des allongements de durée, via des taux qui devraient rester bas. Voilà.
Laurent Demeure.
Je pense que 2018, bon, fin de l'euphorie, oui. Début d'une belle année 2018, oui aussi. C'est-à-dire qu'en fait, l'euphorie, qui avec ce chiffre mythique, presque la barre des 1 million n'a pas été atteinte, ne sera peut-être pas atteinte, mais ce chiffre mythique, on va retomber sur une année entre 800 et 900 000 transactions, ce qui sera déjà des très belles années immobilières. Et on bénéficie actuellement, je dirais, de l'impact de Paris qui rattrape son retard sur Londres et New York et qui fait toujours la locomotive du marché français.
Marie Cœur de Roy.
Fin de l'euphorie, début de l'accalmie, ce sera une belle année encore.
Henri Buzy. Lucie Cazot.
Oui, tout à fait d'accord avec ça. Avec une nuance, s'il s'agit de 10 à 15% de baisse des volumes, je suis plutôt sur ces prévisions-là. C'est beaucoup. Il faut que les professionnels arrivent à absorber cette baisse-là. C'est de l'emploi, c'est de la flexibilité qu'il faut leur mettre. Et puis, c'est des projets de ménage qui ne se réaliseront pas en 2018, année charnière.
Philippe Salle, Foncia.
Écoutez, nous, on reste positif. Donc, je ne sais pas si la baisse sera si forte. Je pense qu'en fait, la baisse en volume sera peut-être, effectivement, peut-être entre les 5 et 10, mais que les prix vont continuer à monter, ce qui fait que, finalement, le marché en valeur risque, finalement, d'être assez stable.
Bon, promis, vous reviendrez, parce qu'on va reparler d'immobilier, quand même, d'ici le 1er janvier prochain, dans les décodeurs de l'écho. Merci à tous. Philippe Salle, c'était sa première en tant que nouveau président de Foncia dans les décodeurs de l'écho. Bonne chance à vous, Philippe Salle. Henri Buzy-Cazot, à la tête de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Marie Cœur de Roy, l'un de ses rendez-vous tous les matins, rendez-vous quotidien dans Intégral Placement sur BFM Business avec Guillaume Sommerer, avec Cédric Decoeur, bien sûr Laurent Demeure, l'un des grands acteurs de l'immobilier de luxe dans le monde, à la tête de Coldwell Banker, France et Monaco, et puis Sandrine Alonier qui mène l'enquête quotidiennement sur vousfinancer.com. C'est fini pour les décodeurs de l'écho, on revient très très vite.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.